Merci d'écouter Inter, 8h. Corinne Audouin, le journal, bonjour.
Bonjour. Autoriser les téléphones portables en prison. Après les propos ambigus de la ministre de la Justice, le débat est relancé. À Montmédy, dans la Meuse, depuis un an, les détenus ont une ligne fixe en cellule et les résultats sont plutôt encourageants. La réponse d'Emmanuel Macron à François Hollande n'a pas tardé. Taclé par l'ancien président, l'actuel locataire de l'Élysée a contre-attaqué devant les journalistes depuis l'Autriche, où il est en déplacement, nous l'entendrons. L'enquête en France sur les attentats de Barcelone et de Cambrils qu'ont fait les terroristes pendant 48 heures en région parisienne, quelques jours avant les attaques. Le mystère n'est pas encore éclairci, nous dira Emmanuel Leclerc. Après les algues vertes, les algues bleues inquiètent les baigneurs. Plusieurs points d'eau sont interdits à la baignade. Et puis deux livres dans un genre très différent à découvrir ce matin. Les confessions d'Hillary Clinton après sa défaite face à Donald Trump et le dernier roman de Lola Lafont, Merci Mary Patty.
8h20, invité de France Inter, l'avocat Henri Leclerc qui publie ses mémoires chez Fayard sous le titre « La parole et l'action, un grand homme de nombreux combats depuis 1955 ». Vos questions à Henri Leclerc, 01 45 24 7000, Twitter et le Facebook Live de France Inter.
France Inter. Le sujet, on le sait, est sensible. Faut-il autoriser, sous certaines conditions, les téléphones portables en prison? La garde des Sceaux a, semble-t-il, parlé trop vite. Mardi, dans un entretien au quotidien La Provence, Nicole Belloubet expliquait qu'il n'y avait rien d'absurde à envisager la distribution en prison de portables bridés, comme le préconise la contrôleur des prisons Adeline Hazan. Rétropédalage en règle hier à la chancellerie, où l'on assure qu'il n'a jamais été question d'autoriser les portables en prison. La ministre de la Justice parlait seulement de développer les lignes fixes en cellule sur le modèle de l'expérimentation en cours depuis un an à la prison de Montmédy dans la Meuse. Une expérience aux résultats plutôt encourageants. Angéline Demuinck.
C'est dans le plus grand secret que tout cela s'est organisé. Les 290 cellules du centre de détention meusien sont désormais chacune équipées d'un téléphone fixe. Deux conditions pour l'utiliser. Il faut fournir à l'avance une liste de numéros et payer soi-même ses communications. Fini donc les conversations sans intimité, debout dans les coursives. Chaque détenu peut utiliser son téléphone à toute heure du jour et de la nuit, en sachant qu'il peut être écouté, voire enregistré. L'administration pénitentiaire précise d'ailleurs qu'en fonction de leur profil, certains détenus sont plus contrôlés que d'autres. Seuls les appels aux avocats ou liés à des problèmes de santé ne peuvent pas faire l'objet d'écoute. L'objectif de cette expérimentation, c'est de lutter contre la prolifération des portables illicites, mais aussi de favoriser la réinsertion en maintenant les liens familiaux de ces prisonniers, tous condamnés d'années à de longues peines. Résultat, au bout d'un an, le nombre d'appels a quasiment triplé, avec un pic entre 19h et 20h le soir. Les saisies de portables, elles ont baissé de 30%. Quant au prix des communications, il a pu être renégocié et baissé d'environ 20%. Angeline Demuinck, France Bleu Sud-Lorraine pour France Inter.
La concertation sur la loi travail, les rendez-vous continuent à s'enchaîner rue de Grenelle. Aujourd'hui, c'est au tour de Force Ouvrière et de l'organisation patronale CPME d'être reçus par les conseillers de la ministre Muriel Pénicaud. Hier soir, la CGT a conclu la journée au bout de 2 heures d'échanges qui ont laissé son secrétaire confédéral Fabrice Angéhi sur sa faim.
Effectivement, on n'est pas aujourd'hui dans un exercice qui permettrait d'amender des ordonnances à la marge en déplaçant des virgules. Contrairement à ce qu'annoncé par le président de la République, on n'est pas du tout dans une rédaction, j'allais dire, partagée, commune, où chacun apporte quelque chose. On est sur une discussion où chacun avance des éléments et sur lequel on ne sait pas exactement ce qui sera retenu. Alors, sur le plafonnement donc des indemnités prud'homales pour licenciement abusif, on n'a pas aujourd'hui les barèmes. Sur le fait aussi de ne pas permettre un référendum d'entreprise sans accord, ça veut dire de la seule volonté de l'employeur, ça c'est pas du tout arbitré. Donc il y a des questions qu'on va apprendre, qu'on n'a pas débattues. Et ça reste donc globalement... Et plus que globalement, donc un projet néfaste pour les salariés, qui est quand même une régression sociale. Donc il y a bien de raisons pour tous, jeunes, retraités et salariés, de se mobiliser le 12 septembre. Et c'est cette mobilisation qui permettra de réellement bouger sur le projet de loi.
Fabrice Angéhi de la CGT au micro de Maxime Deps. Il s'était immiscé dans le débat sur la loi travail. François Hollande devait s'y attendre quand il a mis Emmanuel Macron en garde contre des sacrifices inutiles demandés aux Français. Le président Macron, actuellement en déplacement en Europe de l'Est pour convaincre les Européens de réformer le statut des travailleurs détachés, n'a pas du tout apprécié. Réponse du berger à la bergère. Emmanuel Macron a longuement défendu sa réforme du droit du travail. À Salzbourg, Louise Baudet.
8 minutes de digression très franco-française dans le cadre d'une conférence de presse quadripartite, c'est peu courant et ça n'est pas du tout dans les habitudes d'Emmanuel Macron. Mais voilà, le président français ne parvient pas à digérer les critiques de François Hollande qui ose lui faire la leçon et s'attribue l'embellie économique du moment.
J'entends la chronique météorologique de savoir si les chiffres du mois sont bons, pas bons, si d'un seul coup ça va mieux en France. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on a cette discussion. La réalité, c'est que la France est la seule grande économie européenne qui n'a pas gagné face au chômage de masse.
Voilà pour l'ex-mentor indélicat. Quant à la gauche et aux syndicats, ils n'ont tout simplement rien compris.
Ceux qui prétendent que le marché du travail français aujourd'hui protège en particulier les plus faibles ne regardent manifestement pas la réalité de nos chiffres. Ils protègent les gens qui sont déjà dans l'emploi.
Et n'allez surtout pas suggérer qu'il y aurait un Macron de gauche en Europe et un Macron de droite en France.
Nous devons nous réformer pour nous-mêmes, parce que nous sommes inefficaces. Et dans le même temps, nous devons avoir une Europe qui protège mieux les travailleurs et qui ne donne pas raison à ceux qui vont vers le moins de droits sociaux.
Nouvelle version du « en même tempisme » macronien et recadrage en règle du débat hexagonal. Tant pis pour le protocole et tant pis pour les journalistes autrichiens, tchèques et slovaques présents qui n'ont sans doute pas tout compris. Salzbourg, Louise Baudet, France Inter.
Il est 8h06 à Rotterdam, Corinne. Une alerte terroriste a mis la ville en émoi hier soir.
Oui, la police espagnole avait alerté les autorités des Pays-Bas d'une menace sur le concert du groupe américain Ala Las. Le concert a été annulé, la salle évacuée et une camionnette immatriculée en Espagne contenant quelques bouteilles de gaz arrêtée près de la salle de spectacle. Le conducteur est actuellement entendu par la police, mais le maire de la ville, Ahmed Aboutaleb, incite à la plus grande prudence.
Nous ne pouvons pas encore dire si les bouteilles de gaz sont en lien avec la menace. Aucun lien n'a encore été établi. La police examine le véhicule pour en savoir plus. Une enquête est actuellement en cours.
Le maire de Rotterdam, interrogé par France 24. Quoi qu'il en soit, ce renseignement de la police espagnole n'était pas lié à la cellule terroriste qui a commis les attentats de Barcelone et Cambrils. En Espagne comme en France, l'enquête continue sur les possibles ramifications internationales des membres du groupe djihadiste et notamment sur la venue en région parisienne quelques jours avant les attentats, les 11 et 12 août, de 2 ou 3 membres de cette cellule terroriste. Au cours d'une conférence de presse hier après-midi, le procureur de Paris, François Molins, a détailler ce que l'on sait pour l'instant de ce mystérieux voyage. Emmanuel Leclerc.
À l'aller, ce sont donc au moins 2 membres de la cellule terroriste de Ripoll et Alcanar qui sont descendus dans un hôtel de Malakoff aux portes de la capitale. Ils n'avaient réservé qu'une seule chambre. Ils sont bien allés ensuite acheter un appareil photo à la Fnac Saint-Lazare. Les enquêteurs ont retrouvé, selon nos informations, des vidéos de leur passage prises dans le parking. Mais pour le reste, c'est encore une énigme, selon le procureur de Paris, François Molins.
Je pense que personne ne peut penser à l'heure actuelle que ce voyage éclair ait été effectué pour acheter un appareil photo à la Fnac. Autant les autorités espagnoles que les autorités françaises ont intérêt à savoir ce qui s'est réellement passé et pourquoi ils sont venus. Pourquoi est-ce qu'ils étaient là? Est-ce que c'était pour faire des repérages? Est-ce que c'était pour récupérer des choses? Est-ce que c'était pour rencontrer des gens? Et c'est ça tout le sens du travail qui est fait aujourd'hui dans le cadre effectivement de ces deux dossiers.
Cela fait donc plusieurs jours que les enquêteurs récupèrent toutes les vidéos possibles, analyse de la téléphonie évidemment selon une source proche du dossier et d'autres techniques actuelles pour tenter de débusquer le ou les éventuels complices et puis savoir s'il y avait ces jours-là un commanditaire, un émir de Daesh. Il y aurait des indices assez nombreux à croiser encore avec Madrid, Barcelone et La Haye au siège d'Europol.
Emmanuel Leclerc. Et puis sur l'attaque à la voiture Bélier de Levallois le 9 août dernier qui a blessé 6 soldats de l'opération Sentinelle, François Molins a précisé que l'auteur, blessé lors de son arrestation, ne pourra pas être entendu avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. L'enquête a établi que l'homme avait des velléités de départ en Syrie et qu'il avait repéré les lieux 3 jours avant l'attaque. Après les algues vertes sur les plages bretonnes, cet été ce sont les algues bleues qui prolifèrent dans les rivières et qui inquiètent les baigneurs. Plusieurs points d'eau sont interdits d'ailleurs à la baignade dans la Vienne, la Loire, le Cher et leurs affluents. Ces algues bleues seraient à l'origine du décès de 8 chiens qui ont bu l'eau de la rivière. L'Agence régionale de santé du Maine-et-Loire lance un appel à la prudence. Les explications de Laura Lavenne.
Les algues bleues n'ont de bleu que leur nom car en réalité, il s'agit de plaques gluantes et foncées. Une sorte d'algue verte en somme, mais qui se développe dans les tréfonds des eaux douces, chaudes et lumineuses. Jusqu'à présent, on les trouvait dans nos lacs, qu'on les trouve désormais à la surface de nos rivières. Et le réchauffement climatique n'y est pas pour rien, selon Jean-François Humbert, directeur de recherche à l'INRA.
En fait, quand il y a une augmentation de débit, ça va nettoyer le fond de la rivière. Par contre, si on a des étés qui sont de plus en plus secs, avec des hauteurs d'eau qui sont assez limitées, et puis pas de débit plus important qui arrive, c'est là que ça devient un problème. Et donc, le fait qu'elle soit alors en beaucoup plus grande quantité, c'est quand même peut-être lié aussi aux conséquences des activités humaines.
Au moins 7 départements sont concernés, mais le danger pour l'homme reste limité.
Pour être intoxiqué, il faut consommer les biofilms, c'est-à-dire que les toxines, vous les trouvez pas libres dans l'eau. Et donc, le conseil, c'est de tenir les chiens en laisse. Et puis, faites attention aux très jeunes enfants, pour pas qu'ils jouent sur les galets au bord.
Les autorités vont encore plus loin. Elles ont interdit la baignade dans plusieurs points d'eau, installé des panneaux d'affichage pour informer les promeneurs et les baigneurs et préconisent même d'éviter tout contact avec les rivières concernées.
Laura Lavenne. Et puis après Neymar, c'est l'autre feuilleton footballistique de l'été, selon l'équipe et le Parisien. Le transfert de l'attaquant prodige de Monaco, Kylian Mbappé, vers le PSG, serait en passe d'être signé.
8h11, ce sera sans doute un carton de la rentrée littéraire aux États-Unis. Le livre d'Hillary Clinton sort le 12 septembre.
Dans What Happened, ce qui s'est passé, la candidate malheureuse à l'élection présidentielle américaine revient sur son échec face à Donald Trump. Quelques extraits du livre viennent d'être rendu public par la chaîne américaine MSNBC. Hillary Clinton revient sur quelques moments forts de la campagne et c'est plutôt cinglant. Correspondance à Washington de Philippe Rondé.
C'était le 9 octobre 2016 lors du deuxième débat présidentiel. Dans un moment de tension extrême, Hillary Clinton, debout, un micro à la main, répond aux questions du public. Donald Trump est lui aussi debout, juste derrière elle. La suite, c'est Hillary Clinton en personne qui la raconte en lisant un extrait de son propre livre.
We were on a small stage.
Nous étions sur une petite scène. Il me suivait où que j'aille. Il me fixait des yeux. Il grimaçait. C'était incroyablement gênant. Il me soufflait littéralement dans le cou. J'en avais la chair de poule.
What would you do?
Que feriez-vous à ma place? Resteriez-vous calme, souriante, comme s'il ne mordait pas constamment sur votre espace? Ou bien vous retourneriez-vous pour le regarder dans les yeux et lui dire haut et fort, reculez, sale type, éloignez-vous.
Back up, you creep. Get away from me.
Je sais que vous adorez intimider les femmes, mais vous ne m'intimiderez pas, alors reculez.
So back up.
Et Hillary Clinton de poursuivre, j'ai conservé mon sang-froid, je me demande toutefois si je n'aurais pas dû choisir l'option B. Hillary Clinton qui ne cache donc pas son dégoût pour celui qui l'a battue, une défaite humiliante qui la hante, elle le dit, j'ai échoué et j'aurai à vivre avec cela toute ma vie. Washington, Philippe Rondé, France Inter.
Vous avez compris Nicolas, si back vous up, nous embêtez, back up.
You creep.
You creep, c'est bon. Ça. Rentrée littéraire toujours en France cette fois avec la sortie du nouveau roman de Lola Lafont, Merci Mary Patty, aux éditions Actes Sud. La romancière à son habitude mélange fiction et réalité. Elle s'est inspirée de l'histoire de l'héritière américaine Patty Hearst, enlevée en 74 sur le campus de son université. Elle avait ensuite renié son milieu d'origine et même dévalisé une banque. Un beau début pour un roman qui s'interroge sur la façon dont nous jugeons celle qui s'écarte du droit chemin. Ilana Mor-Youssef.
Lorsque Patricia Hearst a été arrêtée, sa famille, ses avocats ont plaidé le lavage de cerveau. Si la jeune fille a épousé la cause de ses ravisseurs, c'est parce qu'elle était sous emprise, disait-il. C'est précisément la mécanique de ce procès qui a intéressé Lola Lafont.
Le roman commence au moment où une jeune prof américaine, Jean Neveva, en poste dans les Landes, accepte de travailler pour le procès Hearst comme experte et qu'elle reçoit un gros carton de documentation sur Patricia. Et pour ce faire, elle engage une jeune fille dans ce village des Landes, Violaine, qui doit l'aider en 15 jours à décortiquer toute la documentation.
C'est Violaine, la jeune fille effacée et sans expérience, qui fait vaciller les certitudes de la professeure si charismatique.
Elle va entendre le message de Patricia Hearst bien mieux que l'adulte. Elle va comprendre que peut-être que celle qu'on a pensée captive, en fait, elle s'est évadée de sa famille, d'un entourage très pesant. La jeune fille, supposée innocente, tout d'un coup, elle tourne le dos à ce que nous, on appelle la civilisation et elle nous renvoie une image très dérangeante de « je préfère être ailleurs ».
Le motif se répète dans le roman avec les histoires de Mercy et Marie, des jeunes filles enlevées par les Indiens au XVIIIe siècle et qui ont préféré rester avec eux. L'enjeu, dit Lola Lafont, c'est toujours le corps des jeunes filles.
Merci Mary Patty. Le roman de Lola Lafont est publié chez Actes Sud. Lola Lafont qui sera demain avec Alice Zeniter, votre invité, oui. Nicolas, à 8h20 pour oui. la rentrée littéraire. En avant-première, nous annoncerons la sélection des livres de rentrée JDD France Inter. Allez, pour terminer, vous allez me détester, voici Jamais. Un air qui va vous poursuivre toute la journée.
Youpi, dansons la carioca, c'est bien, faisez tous comme moi. Youpi, avec la carioca, tant pis s'il faut dire aux autres danses.
Oh là là. Alors les cinéphiles de plus de 40 ans ont reconnu
c'est nous, ça.
Gérard Darmon et Alain Chabat dans La Cité de la Peur, un film signé Alain Berberian, dont on a appris la disparition hier à l'âge de 63 ans. Ancien complice des Nuls sur Canal+, réalisateur de leur parodie d'émissions et publicités. Il avait également réalisé Le Boulet et L'Enquête Corse. Youpi.
Le Boulet. Merci Corinne Audouin.